d'ailleurs le dernier ministre de l'Intérieur du gouvernement de Abdoulaye Wad. Monsieur le ministre d'État, bonjour.
Bonjour.
Merci, merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation.
C'est un plaisir pour moi.
Nous démarrons avec cette actualité vous concernant. Je veux parler de cette affaire dite affaire des passeports numérisés, un scandale financier portant sur la somme de 118 milliards de francs, selon la presse qui cite un rapport de la Cour des comptes. Comment réagit le principal mis en cause dans cette affaire à cette information d'une gravité reconnue, s'il est avéré?
Écoutez, je vous remercie d'ailleurs de me permettre de clarifier un certain nombre de choses par rapport à ce dossier. Je pense d'ailleurs que ce qui caractérise avant tout les allégations qui ont été publiées dans la presse, c'est d'une part la malveillance, ensuite l'ignorance et un tissu de contre-vérité. Parce qu'on a l'impression que tous ceux qui ont parlé jusqu'ici ignorent comment fonctionne l'administration, comment les marchés de l'administration sont conclus, quelles sont les procédures et tout, ou bien ils sont tout simplement malveillants et ils ont voulu donc faire un amalgame par rapport à beaucoup de choses qui n'ont absolument rien à voir.
Vous excluez qu'ils se soient trompés de bonne foi?
Non, je l'exclus, parce que ce n'est pas la première fois que cette affaire est soulevée. À chaque fois que je dérange ou que je gêne certaines personnes, on soulève cette affaire. J'ai eu d'ailleurs à poursuivre des personnes et des journalistes par rapport à ça, et j'ai gagné d'ailleurs ces procès. Mais qu'à cela ne tienne, je voudrais, par rapport à l'opinion et par rapport à ma propre conscience, m'expliquer par rapport à tout ça. D'abord, je voudrais rappeler comment sont conclus les marchés de l'administration. On a dit dans cette affaire qu'il s'agissait d'un marché irrégulier et qu'il y a eu détournement de deniers publics. Toutes ces deux allégations sont fausses. D'abord, le marché n'est pas irrégulier parce que c'est un marché qui a été conclu à la suite de l'ensemble du processus prévu à cet effet. Il s'agit d'un marché qui relève de la souveraineté nationale, c'est-à-dire du secret défense et de la sécurité. Par conséquent, l'État a parfaitement le droit de faire un marché de gré à gré. Pour ces deux raisons seulement, s'y ajoute l'impératif et l'urgence qu'il y avait à régler ce problème lancinant des passeports, et je reviendrai là-dessus tout de suite. Est-ce que vous imaginez, par exemple, que l'armée, pour acheter des fusils ou des canons, fasse un appel d'offres? C'est pas pensable. C'est des questions qui relèvent de la sécurité, comme le passeport également, sénégalais, relève de la sécurité de notre pays, de la souveraineté de notre pays. Et donc, il est parfaitement concevable que l'État puisse faire un marché de gré à gré.
On vous accuse d'avoir violé de manière flagrante les textes qui régissent la passation de marché.
Non, ce n'est pas exact. Parce qu'il n'y a de marché que lorsqu'il y a approbation du marché par l'autorité compétente. C'est-à-dire, le marché des conclus n'entre en vigueur, n'engage l'État que lorsque l'autorité compétente approuve le marché et que ce marché est notifié aux co-contractants. Jusqu'à ce moment-là, on ne peut parler que de projet de marché. Et le projet de marché n'engage pas l'État. Lorsque donc nous discutons avec quelqu'un, avec un partenaire qui nous fait une proposition et qui a également ses contraintes, ses obligations au niveau de son groupe, nous devons préparer un projet de marché après une étude technique et après cela signer le projet pour qu'on sache que tout le monde est d'accord sur les termes du projet. Mais encore une fois, cela ne veut pas dire qu'il y a marché qui est conclu. À Après cela, nous avons demandé et obtenu l'autorisation et l'avis favorable de la Commission nationale des contrats de l'administration. Parce que si...
Mais
ça ne veut absolument rien dire.
Même si c'est une violation.
Non, ce n'est pas du tout une violation. Parce qu'encore une fois, il faut vous rappeler ce que je viens de dire. Il n'y avait pas de marché, c'est un projet de marché. Après même l'autorisation de la Commission nationale des contrats de l'administration, si le marché était irrégulier ou n'avait pas respecté quelque forme que ce soit, il n'aurait pas été approuvé par le Premier ministre. Ce qui a été le cas. Le Premier ministre a approuvé ce marché le 28 septembre 2007. Et le marché a été notifié. Bien sûr qu'il avait le choix. Il y a beaucoup de marchés qu'il n'a pas approuvé. Vous connaissez quand même le Premier ministre Aguibou Soumaré, qui était un homme responsable, très rigoureux et très indépendant, et qui n'était donc pas sensible à une pression quelconque. Donc c'est parce que le marché était régulier. Et j'y reviendrai d'ailleurs pour montrer encore une fois pourquoi non seulement le Premier ministre, mais également même le ministère des Finances était avec nous pour ce marché. Rappelez-vous cette période. Entre 2005 et 2007, les Sénégalais vivaient un calvaire extrêmement important. C'est-à-dire qu'il y avait, au niveau de ce qu'on appelle le bureau des passeports, des files interminables, des gens qui passaient la nuit ou qui passaient la journée, des bagarres même, et des trafics de toutes sortes.
Oui, mais
je vais préciser tout cela.
Oui.
Donc, il y avait donc des bagarres et de toutes sortes de trafics pour obtenir un passeport. Et l'État n'arrivait même pas à délivrer régulièrement les passeports. Les gens pouvaient rester 6 mois, quelquefois 1 an, avant d'obtenir leur passeport. Pour nos compatriotes émigrés, c'était encore même plus grave. Non seulement ils ne pouvaient pas avoir leur passeport parce qu'il leur fallait venir au Sénégal, ils restaient pendant plusieurs mois pour obtenir le passeport, quelquefois donc ils perdaient leur emploi parce qu'ils n'avaient pas pu renouveler leur passeport, ils perdaient leur carte de santé, ils perdaient également d'autres, ils étaient même expulsés quelquefois parce que ils n'avaient pas le renouvellement de leur passeport.
Donc il fallait intervenir dans l'urgence.
Voilà, il fallait intervenir dans l'urgence. Donc, vous vous rappelez, à chaque fois que le président Ouad revenait d'un voyage ou d'une mission, le premier chapitre qui ramenait avec lui des revendications, c'était le problème des passeports, parce que mon compatriote émigré lui soumettait toujours ces problèmes. Donc, en juillet 2007, le président de la République m'a donné des instructions fermes pour que cette question soit réglée le plus rapidement possible, au plus tard, en tout cas, à la fin de l'année 2007, en décembre 2007. Donc, nous avons pris contact entre le mois de juillet et le mois d'août avec un partenaire stratégique, un groupe malaisien, qui est leader dans son domaine, dans ce domaine de documents sécurisés, qui est un domaine pointu.
Iris Corporation
Perhard. Nous avons fait donc une étude technique rapide.
Dont le patron est proche du président.
Il ne faut pas faire une confusion. Iris Sénégal n'existera qu'après, bien après même, la conclusion du marché. C'est une représentation sénégalaise, donc de Iris Berhad Corporation, qui est une société malaisienne. C'est avec elle que nous avons conclu. C'est pas avec Iris Sénégal que nous avons conclu quoi que ce soit. Iris Sénégal, encore une fois, est une représentation parce que la société a maintenant un marché.
J'essaie de ne pas avoir un link entre
Non. Mais toutes les sociétés qui viennent au Sénégal sont introduites par quelqu'un, par un Sénégalais ou par quelqu'un d'autre.
Mais surtout s'il est proche du président, ça pose problème.
Non, même s'il est proche du président, même s'il peut être proche ou ne pas proche du président, ce qui est important, c'est de voir, un, est-ce que les procédures ont été respectées, et deux, est-ce que ce marché entre dans l'intérêt général, l'intérêt du peuple sénégalais ou pas. Toutes ces deux conditions étaient remplies. Je vous dis que toutes les procédures ont été respectées et le marché a été approuvé. Vous vous imaginez bien que je me disais que vous alliez me poser cette question. J'ai pu obtenir même une copie du marché, une copie du marché avec donc toutes les signatures, c'est-à-dire toutes les approbations et signatures, c'est-à-dire depuis la signature du marché le 3 septembre, l'avis favorable, c'est-à-dire l'autorisation de la Commission nationale des contrats de l'administration et l'approbation du Premier ministre, donc, pour ce marché. Alors, cela montre, et pour clore définitivement le débat, cela montre, quand on arrive à l'approbation par le Premier ministre et à la notification du marché aux co-contractants, cela montre donc qu'il n'y a plus aucune irrégularité. C'est comme en matière pénale. Lorsqu'on est dans une procédure, par exemple, de la cour d'assises, et qu'on allègue, ou bien on pense qu'il y a certaines nullités dans la procédure au niveau de la chambre d'accusation, il faut les soulever avant l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises. Si on ne les soulève pas, une fois que l'arrêt de renvoi est pris et que le prévenu est renvoyé devant la cour d'assises, vous ne pouvez plus soulever ces irrégularités. Mais dans le cas d'espèce, à supposer même qu'il y ait une irrégularité au départ, toutes les procédures ont été suivies après. Il n'y en a pas. J'ai dit à supposer même qu'il y ait
une... Vous semblez indiquer qu'il
n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Dites-moi, quel est... Je vous ai dit que du début, c'est-à-dire du 3 septembre, au moment donc de la signature du marché, jusqu'à l'approbation par le Premier ministre, nous sommes dans la phase projet de marché. On n'est pas dans la phase marché. Il n'y a de marché. Et je vous demande de vous référer également au décret de 2007 qui règle le problème des marchés publics, ou bien même au décret de 2002. C'est seulement l'approbation par l'autorité compétente. Le décret de 2007, c'est l'article 83. Je vous demande de vous y référer. C'est l'approbation donc par l'autorité compétente du marché qui engage l'État. Tant qu'il n'y a pas encore cette approbation, il n'y a pas de marché, l'État n'est pas engagé. Ça, il fallait donc le préciser une bonne fois pour toutes.
Absolument.
Encore une fois, je mets à votre disposition ce document où vous pourrez constater toutes les signatures. Alors, je voudrais également dire que, dans le cas d'espèce, contrairement à ce qui a été dit, il ne pouvait pas y avoir de détournement de deniers publics, puisque l'État n'a pas mis un franc. Un franc, je dis bien, je pèse mes mots. Un franc, donc, dans ce projet.
Avec quel argent on l'a fait?
Mais justement, c'est ça la grande confusion. Quand on parle de 118 milliards, on pense que oui, l'État a sorti 118 milliards. Jusqu'au moment où je vous parle, l'État n'a pas sorti d'argent. C'est plutôt l'État qui reçoit de l'argent. Parce que tout simplement, ce marché a été inspiré du BIOTI. C'est-à-dire qu'il y avait une urgence telle qu'il fallait trouver une solution, puisque c'est en plein exercice budgétaire, ce n'est pas au début de l'année. Je vous ai dit, c'est au mois de juillet 2007 que les instructions ont été données par le président de la République. S'il fallait attendre l'année d'après pour mettre dans le budget de l'argent pour aller chercher un partenaire et régler ce problème, on ne l'aurait pas réglé au bout de un an ou deux ans. Mais il fallait régler ça. C'est ça la différence d'ailleurs dans la méthode ou dans la gestion WAD avec les gestions antérieures ou même les gestions actuelles. C'est faire preuve d'imagination, ensuite être innovant, c'est-à-dire trouver des solutions innovantes, ne pas se contenter des solutions classiques.
Avec quel argent avez-vous
financé? Justement, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Nous avons trouvé un partenaire stratégique qui a accepté de s'engager dans ce projet et de le financer entièrement.
Qui est ce partenaire?
C'est Iris Berhad Corporation, dont nous parlions tout à l'heure, qui a accepté donc de financer entièrement ce projet. C'est-à-dire celui qui a mis tous les équipements qu'il fallait mettre, celui qui a mis tous les consommables, c'est-à-dire les talons, le passeport et tout, mais tous les équipements. Je rappelle aussi que jusqu'au moment où nous faisions ce projet, il n'y avait qu'un centre de production des passeports qui était à Dakar, qu'on appelle le bureau des passeports. Et nous étions liés à l'imprimerie française par le biais d'ailleurs d'un privé français aussi, qui faisait les passeports. Cela coûtait chaque année des milliards à l'État du Sénégal. Nous étions même obligés chaque année de demander des rallonges au ministre des Finances pour régler le problème des passeports, qui n'était pas réglé, parce que je vous ai rappelé tout à l'heure ce qui s'est passé. Donc c'est un calvaire pour le Sénégal et pour tous les Sénégalais. Alors, avec d'autres projets, non seulement nous avons réglé définitivement le calvaire et le problème des passeports, mais nous avons équipé de la façon la plus moderne le Centre national de production de passeports. Mieux, nous avons créé au niveau des régions des centres régionaux de production de passeports.
Les centres de attendez.
Ça, c'est vraiment encore une fois la partie visible de la Glasberg. Il faut reconnaître qu'il y a eu au moins 6 centres régionaux qui ont déjà été créés immédiatement. Il restait 2 centres, celui de Matam et de Tamba. Je vais y revenir pour vous expliquer pourquoi. Mais on a créé donc les centres régionaux, ce qui fait que les Sénégalais qui étaient à l'intérieur du pays et qui devaient se déplacer pour venir à Dakar pour faire leur passeport, ne bougeaient plus. Ils pouvaient faire leur passeport à Saint-Louis, à Kaolack ou bien ailleurs, sans avoir à se déplacer à venir à Dakar. Mieux, nos compatriotes émigrés dont je vous parlais tout à l'heure, qui devaient venir au Sénégal, rester ici quelquefois 2 mois, 3 mois, 6 mois pour avoir leur passeport, n'avaient plus à venir, puisque dans les grandes ambassades du Sénégal, nous avons ouvert des bureaux de production des passeports, qui leur permettent donc de disposer de leur passeport en moins d'une semaine, en 3 ou 4 jours, en moins d'une semaine. Oui. Alors ça, nous l'avons réglé, 8 donc centres qui ont été ouverts à l'extérieur. Ça, c'était déjà, je crois, une révolution. Le fait de décentraliser les passeports, le fait de pouvoir faire les passeports.
Mais qu'est-ce qu'il y a bloqué le centre de Matam et
attendez,
qu'on y aille vite.
Est-ce que vous avez entendu parler encore de nouveau du problème des passeports depuis là? Est-ce qu'il y a des queues ou bien est-ce qu'il y a des demandes qui ne sont pas satisfaites? Il n'y en a pas. Donc cela veut dire que
on
nous
avons. Le prix fort aussi peut-être.
Oui, mais on n'a pas payé jusque-là, justement. On n'a pas payé encore le plus fort. Je vais encore y revenir tout de suite. Vous posez la question, qu'est-ce qui a empêché le centre de Matam et de Tamba d'avoir été créé? Parce que nous avons pu, en mettant en œuvre le projet, en créant déjà les 6 centres régionaux dont j'ai parlé tout à l'heure, constater que le flux de demandes de passeport s'était complètement donc tassé. C'est-à-dire, les Sénégalais sachant désormais qu'ils peuvent avoir les passeports plus facilement, il n'y avait plus un rush, etc., pour donc aller vers des centres. Et donc, on s'est dit qu'au lieu de créer un autre centre à Matam, un autre à Tamba, alors que les populations de Tamba peuvent aller à Saint-Louis faire leurs passeports, et les populations de Tamba peuvent aller à Kaolack déjà faire les passeports, il était préférable dans l'urgence d'ouvrir d'autres centres à l'extérieur, notamment à Casablanca et en Afrique du Sud, où il y avait une demande très importante de nos compatriotes et qui ne pouvaient donc pas avoir de passeport.
Vous avez sacrifié les populations?
Non, on n'a pas sacrifié.
On n'a pas sacrifié
parce que, encore une fois, les populations de Matam sont aussi en Afrique du Sud ou sont à Casablanca, ils sont ailleurs. C'est simplement parce que nous avons regardé là où il y avait la pression la plus forte et nous avons donc envoyé ces projets là-bas. En attendant de pouvoir ouvrir d'autres centres, parce que l'ambition était de couvrir l'ensemble du territoire national avec des centres. Okay. Mais ce qui était important, c'est que nous avons réglé le problème.
Oui.
Alors, je vous ai dit donc que l'État du Sénégal n'a pas jusqu'ici sorti un franc pour ce projet, parce que nous nous sommes inspirés du BIETI. On a demandé aux partenaires de fournir les équipements, de fournir les consommables, de former le personnel, de faire fonctionner le projet et de se faire payer uniquement sur le produit des ventes de passeports. C'est-à-dire, l'État ne sort pas de l'argent.
Et nous n'avons pas.
Justement, j'ai bien dit de se faire payer. Donc, ce n'est pas gratuit. Il se fait payer.
Combien?
Mais il se fait payer donc sur le prix du passeport qui n'a pas changé. Parce que malgré ce saut dans la modernité que nous venions de faire, et qui méritait même une augmentation du prix du passeport, le président de la République, Maître Abdoulaye Wade, avait insisté pour que le prix ne change pas. C'est-à-dire qu'on maintienne le prix du passeport comme l'ancien prix de 20 000 francs. Alors, nous nous sommes acquittés de cette tâche, et le partenaire donc devait partager. Nous avons négocié pour que le partenaire partage même les prix du passeport avec l'État du Sénégal. Le passeport donc qui coûtait 20 000 francs, le partenaire à 11 000 francs sur 11 000 et quelques sur le prix du passeport et les gars du Sénégal à 8 000 et quelques. Le ministre des Finances lui-même, qui savait que chaque année, nous le harcelions pour nous donner de l'argent pour régler le problème des passeports, n'a jamais été aussi content qu'avec ce projet. C'est la première fois que j'ai vu le ministre du Budget, et vous pouvez l'interpeller, le ministre du Budget d'alors, qui était donc Ibrahim Assar, c'est la première fois que je l'ai vu se lever à l'Assemblée nationale pour soutenir un projet comme ça. Il a dit que c'est la première fois qu'un ministre, au lieu de me demander de l'argent, apporte de l'argent dans la caisse de l'État. C'est-à-dire, et j'aurais également précisé, que c'est pas nous, l'argent ne passait pas par nous. C'était des quittances qui allaient directement au ministère des Finances. Et c'est le ministre des Finances, lui-même, une fois qu'il a encaissé, 90 jours après seulement, payé le partenaire. Donc, il y avait aucun passage possible par le ministère de l'Intérieur. Enfin, permettez-moi de dire une dernière chose sur cette question, c'est vous dire que nous avons fait un saut dans la modernité, parce qu'on a fait le choix de l'imagination et de l'innovation, parce que le Sénégal a eu le passeport numérisé et biométrique un an avant la France. Un an avant la France. Moi, j'étais très content quand j'étais dans un avion, et je lis dans le journal Le Monde, en décembre 2008, que la France venait d'adopter le passeport numérisé et biométrique, donc nous étions en avance sur la France. Deuxièmement, vous savez, ou peut-être vous ne savez pas, que les États-Unis d'Amérique, en accord avec l'OACI, ont décidé que, en 2015, tout pays qui n'aura pas de passeport numérisé et biométrique, ses ressortissants n'entreront pas sur le territoire des États-Unis. Nous avons déjà rempli cette condition en faisant ce saut dans la modernité, en réglant définitivement le problème donc du passeport. Et ce que je vous disais, ce qui caractérisait donc notre gouvernance, c'est l'audace, l'imagination et le sens de l'innovation. Et c'est pourquoi
on ne peut pas...
Non, mais démontrez-moi une seule fois ici, où il y a Gabéji, puisque je vous dis que il n'y a aucun préjudice pour l'État. L'État n'a pas sorti, jusqu'au moment où nous parlons, un franc pour ce projet. Alors, où se trouve le détournement des deniers publics?
Oui, en tout cas, quelques heures avant que la presse ne se fasse l'écho de cette affaire, un proche du président Macky Sall a eu à faire une sortie musculée contre vous, Mahmoud Saleh, qui vous a même presque promis la prison. Comment avez-vous réagi à cette sortie de Mahmoud Saleh?
Écoutez, c'est vraiment triste de parler de quelqu'un comme Mahmoud Saleh, parce qu'il a habitué les Sénégalais à ses frasques et à ses déclarations fracassantes. J'allais vraiment traiter par le mépris même ces déclarations, parce que bon, vous vous êtes rappelé tout ce qui s'est passé, hein, avec toutes les histoires qu'il a inventées, coup d'état rampant, coup d'état debout, coup d'état couché, etc., sans compter ces valses d'un parti à un autre, ou d'un groupe à un autre. D'ailleurs, j'étais tellement content de lire un écrit qui a été publié dans la presse cette semaine, d'une personne que je ne connais même pas, et qui m'a envoyé une lettre vraiment pour me dire que moi, je suis foncièrement contre l'injustice. Et je sais que vous êtes victime d'une injustice, et c'est pourquoi je prends ma plume pour dénoncer cette injustice-là. Et il a parlé de la plaie salée, qui est un trotskiste, on le connaît, situationniste et vraiment opportuniste à souhait. Et je crois que le président Macky Sall aurait intérêt à se méfier et à se débarrasser très vite des gens comme ça.
Mais sur le terrain des arguments.
Quel argument? Quelle preuve? Je viens de vous démontrer de façon limpide qu'il n'y a pas un seul franc de l'État dans ce projet, donc il ne peut pas y avoir de détournement de deniers publics. J'attends de pied ferme tous ceux qui viendront me parler de cette affaire.
Oui, ce qui s'est passé. Je voulais vous dire d'ailleurs, justement,
s'agissant de la Cour des comptes, que au moment où donc cette investigation ou ce rapport de la Cour des comptes était préparé, il se trouve que moi-même, j'étais plus au ministère de l'Intérieur, J'étais dans un autre département ministériel. Et ensuite, ceux qui avaient fait le projet et suivi le projet n'étaient plus au ministère de l'Intérieur. Et donc, ils ont interrogé ou travaillé avec des gens qui ne connaissaient rien du tout au projet. Et celui qui a travaillé également sur ce projet pour le compte de la Cour des comptes, je ne suis pas sûr également qu'il avait tous les éléments d'appréciation ou même les compétences qu'il fallait pour faire son travail. C'est pourquoi, et je considère d'ailleurs, s'agissant de la Cour des comptes, ou comme des autres institutions chargées d'auditer ou de contrôler les services de l'État, la procédure est contradictoire. Il faut, lorsqu'on fait un travail de ce type, avant de publier un rapport, ou avant de faire des fuites dans la presse, au moins
nous ont pas entendu.
Donner à la personne, voilà, nous entendre, au moins nous donner les pré-rapports pour nous permettre de nous prononcer par rapport à ce qui est dit, pour que nous puissions même éclairer, s'il le faut, les gens qui travaillent sur ce dossier. Ce n'était pas le cas. C'est pourquoi, lorsque le rapport a été publié, j'ai pris ma belle plume. Je n'ai pas attendu qu'on quitte le pouvoir, hein, et ceci est vérifiable. À ce moment-là, nous étions en plein dans le pouvoir. J'ai pris ma belle plume immédiatement pour écrire au président de la Cour des comptes pour dénoncer ce qui a été fait. Pourquoi le menacerais-je? J'ai pas besoin de le menacer, c'est pas mon genre. Moi, j'ai rétabli la vérité, tout simplement. J'ai rétabli la vérité, j'ai démontré que ce qui a été dit n'était pas exact, qu'il y a eu des erreurs d'appréciation, il y a eu également des contre-vérités qui ont été dites dans ce document, et j'ai envoyé ce courrier donc au niveau de la Cour des comptes. Ceci également est vérifiable, et par conséquent, je rejette aujourd'hui, plus que jamais, ces allégations contenues dans ce rapport. Maintenant que d'autres essaient, pour des raisons politiciennes ou parce que Ousmane Gom dérange certains. Ceux qui aujourd'hui essaient de me coller des choses qui absolument n'ont ni tête ni queue, ne peuvent pas du tout me toucher. Vous savez, moi, encore une fois, j'ai traversé beaucoup de tempêtes parce que, encore une fois, je n'ai de juge que ma propre conscience. Aujourd'hui, ce que les milliards rendent fous ou qui essaient coûte que coûte de dire oui, il y a des milliards cachés quelque part, c'est des gens qui n'ont connu les milliards que maintenant. Moi, c'est rare, vous m'excusez d'ailleurs, c'est rare que je parle de moi-même, mais puisque vous m'obligez, je vais le faire. Les milliards, je les ai connus même avant l'alternance, avant même que mes trois n'arrivent au pouvoir. Moi, très jeune ministre, en 1991, j'ai conduit des délégations importantes d'hommes d'affaires et de sociétés sénégalaises au Koweït. Vous vous rappelez la guerre du Golfe, la reconstruction du Koweït. Le Sénégal était le seul pays africain qui y a participé. J'ai conduit ces délégations-là. J'ai pu obtenir de l'émir du Koweït des marchés pour les entreprises sénégalaises de plusieurs milliards, sans appel d'offres. Sans appel d'offres. Beaucoup de grandes entreprises d'aujourd'hui, que ce soit CSE, CDE, EGCAP à l'époque, CMA, COSELEC et bien d'autres entreprises, ont pu avoir des gains importants au niveau de ce projet. Vous pouvez les interpeller. Est-ce qu'il y a une seule entreprise qui m'a donné un franc ou qui a négocié un franc avec moi? Et pourtant, c'était des marchés de plusieurs milliards. Donc, les milliards, ça ne me tourne pas la tête. J'ai moi-même négocié et mobilisé pour le compte de l'État du Sénégal, quand j'étais ministre de la Santé, 226 milliards pour le PDIS qui marche jusqu'à présent. 226 milliards. Beaucoup de gens avaient dit, oui, Ousmane Gom ne quitterait pas le gouvernement, il n'allait pas démissionner parce qu'il ne va pas laisser ce pactole-là, ce 226 milliards, et partir du gouvernement. J'ai été le premier à quitter le gouvernement à une semaine du démarrage du projet. Donc moi, les milliards, ça me laisse froid. Ça me fait ni chaud ni froid.
Les accusations sont très graves, vous le reconnaissez.
Non, je ne les reconnais pas, hein.
Oui, vous les nommez, mais les accusations sont très graves.
Oui, mais je les rejette.
Absolument, mais elles sont très graves.
Pourquoi je les rejette de la façon la plus formelle.
Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin?
Et j'attends de pied ferme qui que ce soit l'État ou que ce soit quelqu'un d'autre, mais j'attends de pied ferme, puisque moi j'ai la conscience tranquille.
Oui. Maintenant, quelle suite? Est-ce que vous allez donner une suite judiciaire à cette affaire?
Non,
je... Lamez votre honneur.
Ce qui est important, pour moi d'abord, c'est éclairer l'opinion. Je le fais aujourd'hui, avec votre émission, je le ferai également par d'autres canaux. Et si c'est nécessaire également, j'apporterai une suite judiciaire. J'ai eu déjà à le faire, d'ailleurs, et j'ai eu gain de cause avec des journalistes. Mais lorsqu'il s'agit vraiment de politiciens en perte de...
Donc il est exclu que vous portiez plainte contre Macky Sall.
De politiciens... Non, justement, j'étais en train de vous dire, lorsqu'il s'agit vraiment de politiciens en perte de vitesse, qui cherchent à se faire une publicité ou à rebondir, je ne leur donnerai pas ce plaisir, vraiment, de les envoyer devant des tribunaux, parce que l'opinion et l'histoire les ont déjà jugés.
Maître Ousmane Gomme, est-ce vrai qu'on vous a notifié une interdiction de sortie du territoire national?
Ça aussi, ça fait partie des affabulations, excusez-moi, de la presse et de certains qui les manipulent. Moi, je n'ai reçu aucune notification.
Vous êtes libre de vos mouvements?
Pardon, d'une quelconque interdiction, ni de sortie du territoire, ni de quoi que ce soit. Je suis libre de tous mes mouvements. J'ai vu dans la presse de cette semaine qu'on était à l'aéroport à 8h
avec le président pour se rendre à l'Amérique.
Ça, vraiment, les gens doivent être quand même de bonne foi. Le président Wade n'a quitté chez lui qu'à 14h ou 15h pour aller à l'aéroport. C'est la seule fois où il a quitté chez lui. Moi-même, je n'ai été à l'aéroport qu'en ce moment-là. Je n'ai pas été à l'aéroport avant. Puisque j'ai travaillé avec lui dès le matin sur des dossiers et sur des documents du parti, puisque nous étions réunis la veille pour prendre un certain nombre de décisions que vous avez dû voir d'ailleurs, puisque nous avons sorti un communiqué à cet effet. Donc nous avions travaillé sur ces questions. J'étais chargé de travailler sur les projets de communiqué et de déclaration. Je suis venu lui soumettre cela le matin et nous avons travaillé sur cela. Et je lui ai dit, bon, je vais l'accompagner à l'aéroport. Nous sommes partis ensemble à l'aéroport. Pourquoi il est parti un peu plus tard que prévu? Là aussi, il faut que l'opinion soit éclairée. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir actuel ou le gouvernement ou quoi que ce soit. C'est simplement parce que l'avion avait prévu de passer au-dessus du Soudan, pour aller vers la Mecque, vers l'Arabie Saoudite. Et comme il y a cette situation...
Je pense
qu'il y a
une zone de turbulence.
Oui, une zone de turbulence où il y a une zone vraiment de guerre et de trucs. Il y a eu des problèmes donc par rapport d'abord à cette option et ensuite par rapport à l'obtention de l'autorisation de survol du Soudan. Le président Wade a dit, moi je souhaiterais que vous choisissiez une autre voie, que vous passiez par la Mauritanie, l'Algérie et l'Égypte et qu'on puisse aller vers la Mecque. Et c'est ça qui est en train d'être réglé. Et une fois que donc cette question a été réglée, et que le plan de vol donc a été changé, en ce moment le président a quitté chez lui. J'étais dans la même voiture que lui. J'ai vu dans la presse qu'il a refusé de monter dans une Mercedes, qu'il est monté dans une 4x4. C'est faux. Il était dans une Mercedes, j'étais à côté de lui. Et nous sommes allés à l'aéroport. Il n'est même pas resté 5 minutes à l'aéroport. Il ne s'est même pas assis. Dès qu'on est arrivé, il est allé directement à l'avion. Alors on a dit qu'il est resté là-bas, les mains dans le dos, il faisait les 100 pas. C'est totalement faux. Alors je crois que là aussi, il faut que la presse fasse preuve davantage d'esprit de discernement et de responsabilité. Qu'elle ne se laisse pas manipuler. Non, non. Nous sommes tous des Sénégalais. Nous avons quand même des valeurs à défendre. Même si vous êtes journaliste ou si d'autres ne le sont pas, il y a quand même certaines valeurs. Indépendamment de la déontologie, enfin de toutes les règles qu'on vous apprend, je pense que il faut préserver certaines valeurs, vérifier les informations, ne pas se laisser manipuler. Voilà l'exacte vérité. En ce qui me concerne, encore une fois, il n'y a eu aucune interdiction. Je n'avais pas du tout l'intention de voyager avec le président, comme également le ministre d'État Mamour Cissé ou le ministre Modou Diagne Fara ou Ablaye Faye. Vous nous auriez vu avec des bagages, alors retournez chez nous si nous avions voyagé, si nous devions voyager. Mais nous étions partis les mains nues à l'aéroport pour accompagner le président.
Maintenant, craignez-vous d'être l'agneau du sacrifice dans la volonté des nouvelles autorités de lutter farouchement contre l'enrichissement illicite?
Mais pourquoi je serais l'agneau du sacrifice?
Moi, je ne me suis crié au complot.
Non, je ne crie pas du tout au complot. Moi, je parle de personnes qui sont de mauvaise foi. Et et qui essaie donc d'utiliser n'importe quel argument. Mais moi, je ne peux pas être l'agneau du sacrifice parce que je ne me suis pas enrichi illicitement.
Oui, en tout cas,
j'attends, moi, qu'on me démontre que je me suis enrichi illicitement.
Oui. Les nouvelles autorités ont décidé de réactiver la loi sur l'enrichissement illicite. Votre parti se dit contre. Qu'avez-vous peur?
On a peur de rien du tout. Mais c'est que nous sommes attachés tout simplement à la démocratie, à la liberté. Et au-delà de tout ça, nous sommes attachés aux principes généraux du droit, aux principes même les plus élémentaires du droit aussi. Nous sommes attachés au respect des droits de l'homme. Nous considérons que la loi sur l'enrichissement illicite est une loi anachronique, est une loi scélérate, est une loi inconstitutionnelle et inquisitoire. Parce que vous le savez, vous l'avez lu dans les textes, la charge de la preuve est inversée. Ça, c'est violer même les droits de l'homme les plus élémentaires et les règles de droit les plus élémentaires. Vous vous rappelez, c'est le président Abdou Diouf qui avait initié cette loi, mais il s'est très vite rendu compte que cette loi était néfaste et encore une fois violée toutes les règles. C'est pourquoi d'ailleurs il n'a pas pu l'appliquer efficacement. Lorsque la Cour a été créée dans les conditions que l'on sait, il n'y a eu que deux lampistes qui ont été poursuivis et la loi est tombée en désuétude. Le président Abdoulaye Wade, quand il est arrivé, a ignoré purement et simplement cette loi. Parce qu'il est attaché à la liberté, à la démocratie et aux droits de l'homme. Et dans aucun pays démocratique, dans aucune démocratie moderne, vous ne trouverez une loi pareille ou une cour pareille.
Il va la ignorer et ça a laissé la porte ouverte à toutes les dérives.
Non, pas du tout.
Trop de scandales financiers sous le régime libéral.
Mais on en a parlé sous d'autres régimes également, mais il ne s'agit pas d'en parler.
Pas au même degré.
Non, attendez, il ne s'agit pas d'en parler, il s'agit de le démontrer et de le prouver. J'ai rappelé récemment que la culture d'audit et du contrôle, le devoir de rendre compte. Mais Abdoulaye Wade a mis en place des institutions qui ont renforcé tout cela. Des institutions, et même les institutions qui existaient, il a accru leur pouvoir. Que ce soit l'inspection générale d'État, que ce soit la Commission nationale de lutte contre la corruption et la concussion, que ce soit l'ARMP...
C'est ou... vrai également que l'impunité a atteint des
attendez, attendez, alors, donc, c'est vous dire que, donc, et je rappelle que pendant qu'il était au pouvoir, Abdoulaye Wade a instruit des audits de plusieurs structures qui étaient donc dirigées par des gens proches de lui. Il a fait même mettre en prison des gens qui étaient donc convaincus d'avoir quelque chose à se reprocher ou détourner l'argent de l'État. Donc, encore une fois, nous sommes favorables aux audits. Nous sommes favorables au contrôle. Mais il faut que cela se fasse de façon objective. Il faut que cela se fasse de façon non discriminatoire. Les instruments de contrôle et les instruments d'audit de l'État ne sont pas là pour régler des comptes politiques. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique politicienne. J'espère bien qu'il n'est pas là pour ça. Parce que s'il le faisait, il irait dans un mauvais chemin. Il se fourvoirait. Et s'il le faisait également, mais nous allons le combattre. Parce que nous, il n'est pas question que nous laissions les choses faire ou qu'on puisse nous prendre comme des boucs émissaires. Non, il n'en est pas du tout question. Nous, politiquement, nous allons nous mobiliser avec tous ceux qui croient
à ce combat. Rien à vous reprocher.
Oui, mais bien sûr. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que moi, j'avais la conscience tranquille.
Oui,
je n'avais absolument rien à me
dire.
Et c'est pourquoi je vais me mobiliser. Non, au-delà de ma personne, ou au-delà même des personnes qui sont avec nous.
Là, vous avez peur.
Encore une fois, non, je vous ai dit, c'est une question de principe. Nous sommes des militants des droits de l'homme. Vous savez, moi, je suis membre, c'est que beaucoup de gens ne savent pas, mais à l'ultime, qui n'est pas, qui s'est ainsi mon ami, mais qu'il a été dans le passé, pour vous confirmer que moi je suis membre fondateur de la RADO. J'étais encore étudiant. Je suis membre fondateur de la RADO. Donc au-delà de mes activités politiques, je suis un défenseur des droits de l'homme, je suis un militant des droits de l'homme, je suis un militant des principes de droit, du respect de la liberté et de la démocratie. Okay. Donc, lorsqu'il y a des juridictions d'exception ou des lois scélérates, même si je ne suis pas concerné, je vais me lever, je vais me mobiliser avec tous ceux qui croient à ce combat pour me battre contre de telles armes.
Voilà, Maître Ousmane Gomme, il nous reste quelques petites minutes, nous allons avancer un peu. Monsieur le ministre d'État, le PDS et ses alliés ont perdu le pouvoir le 25 mars dernier. Avec le recul rapidement, quelle analyse faites-vous de la défaite de votre candidat?
Écoutez, je pense que la défaite, nous l'avons acceptée dignement. Vous rappelez le président Abdelawad, quelques heures seulement, moins de 3 heures après la fermeture des bureaux de vote, a appelé son challenger, M. Macky Sall, pour le féliciter et donc former les meilleurs voeux pour lui. Il a demandé également d'ailleurs à ses collaborateurs de ne pas attaquer le nouveau régime et donc de lui faciliter la tâche pour lui permettre de répondre aux attentes des Sénégalais. C'est pourquoi le Sénégal...
semblait faire fi de ses recommandations.
Non, justement, jusqu'ici, j'ai scrupuleusement respecté cette recommandation-là. Mais, comme dit l'autre, qui s'y frotte s'y pique. Lorsque nous sommes attaqués, lorsqu'on nous entraîne dans le terrain du combat, alors nous sommes des combattants, nous sommes des militants. Nous avons l'élégance, justement, de ne pas attaquer les premiers, de ne pas tirer les premiers, de respecter notre adversaire, d'avoir un gentleman agreement, mais lorsque nous sommes agressés, ne comptez pas sur nous pour laisser faire. Alors, je disais donc que par rapport à cela, une fois que nous avons constaté donc cette défaite, nous avons analysé, mais même avant d'en arriver à cette défaite, nous savions qu'il y avait une conjonction de facteurs très nombreux qui pouvaient non seulement nous conduire vers cette défaite, mais qui pouvait conduire le Sénégal vers le chaos, vers une situation ingérable.
Vous faites allusion à quoi ?
Avec des centaines de, voire des
milliers de morts. La violence préélectorale ?
Non, c'est pas seulement la violence préélectorale. La violence préélectorale, justement, nous l'avons contenue. Nous l'avons même bien contenue pour éviter, justement, au Sénégal des centaines de morts, des milliers de morts. Comme on en connaît d'ailleurs aujourd'hui, dans des pays voisins, que nous connaissons, mais aussi au-delà dans les pays du monde arabe, d'Afrique du Nord et ailleurs, et même en Côte d'Ivoire par exemple, où il y a eu 6000 morts autour seulement de la confrontation autour du pouvoir. Nous savions que le président Wade était victime d'au moins deux choses. La première chose, c'était le lynchage médiatique dont il a été l'objet pendant plus d'un an ou un an et demi. On lui a tout mis sur le dos. Il y a eu même des influences extérieures pour même orienter la presse de façon systématique dans une certaine direction, tous les jours, tous les matins. Et pourtant, qui a plus fait qu'Abdoulaye Wade pour la liberté de la presse, pour l'éclosion de la presse et de la communication dans notre pays? Je ferme cette parenthèse. Mais, malgré tout, il a résisté. Mais ce qui était encore le plus grave, c'est une coalition internationale qui s'est faite pour faire tomber Wade. Parce que pour cette coalition, pour les composantes de cette coalition, qui étaient de grandes puissances, de grands lobbies internationaux, pour cela donc, Abdoulaye Wade dérangeait.
Ce sont les
mais justement, c'était pour influencer les Sénégalais pour faire un faire un lavage de cerveau au niveau des Sénégalais pour faire comprendre justement qu'il fallait se débarrasser de Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade dérangeait, pourquoi? Il dérangeait parce que il a choisi d'être indépendant, d'avoir une personnalité très forte qui a rejeté les accords de partenariat économique. Vous vous rappelez, Abdoulaye Wade a organisé des marches, il a organisé des convois à Bruxelles pour mobiliser l'Afrique contre les accords de partenariat. Il a également diversifié la coopération. Avant, c'était une coopération unilatérale. Mais Abdoulaye Wade a préféré diversifier la coopération avec le monde arabe, avec le Brésil, avec la Chine, avec l'Inde. Alors, les membres de cette coalition occidentale se sont dit, Abdoulaye Wade, là, il est dangereux. Si on laisse faire, si les autres chefs d'État africains font comme lui, nous allons perdre notre influence en Afrique. Et c'est pourquoi il fallait coûte que coûte se débarrasser de Abdoulaye Wade. C'est pourquoi il y a eu cette coalition très forte contre Abdoulaye Wade. Je termine, non, attendez, je termine par rapport justement à cette coalition qui s'était très bien préparée. Ils ont mobilisé des milliers d'observateurs. Est-ce que vous avez vu dans quelques pays du monde plus de 1000 observateurs de l'Union européenne?
Le contexte était lourd de danger.
Non, pas du tout. Il y a eu des pays où il y a eu des centaines de morts et il n'y avait pas 1000 observateurs de l'Union européenne. Ils sont venus. Ils avaient voulu reproduire le même schéma qu'en Côte d'Ivoire. L'hôtel du Golfe, avec les observateurs, avec le gouvernement parallèle, là aussi, c'est l'hôtel Radisson. Tous les observateurs logés à l'hôtel Radisson, avec l'état-major de Macky Sall à l'hôtel Radisson. Et même si Wade avait dit qu'il avait gagné, Macky aurait déclaré un gouvernement parallèle à Radisson qui serait soutenu justement par cette coalition. Nous nous aurions opposés et il y aurait eu des centaines, voire des milliers de morts. Heureusement qu'il y a eu l'appel d'Abdoulaye Wade à 21h30 pour féliciter Macky Sall, ce qui a évité au Sénégal les corps.
Mais Ousmane, rapidement, un mot sur ce panier à crabe libéral. Boku Guiss-Guiss, les dissidents de Boku Guiss-Guiss, vous, qu'est-ce que vous en pensez rapidement?
Écoutez, je pense que ces conséquences, ce sont les conséquences de la partie du pouvoir. Parce que si on était encore au pouvoir, c'est sûr qu'il n'y aurait pas eu cette scission ou ce fractionnisme. Il y a des gens qui ont peur de l'opposition. Mais pour le PDS et ses responsables qui sont restés fidèles à la ligne et à l'idéal du Sopi, c'est une cure d'amaigrissement, mais aussi c'est une cure d'assainissement. C'est-à-dire, oui, absolument, cela va nous permettre de repartir sur de nouvelles bases, de hisser encore plus haut le flambeau du Sopi et d'aller vers la conquête du pouvoir. C'est l'article 2 des statuts du PDS dit de façon très claire, l'objectif du PDS, c'est la conquête démocratique du pouvoir. La reconquête démocratique du pouvoir par la base, c'est ce que nous allons faire et nous y travaillons d'ores et déjà. Nous avons tous les moyens pour y arriver et encore une fois, nous savons que les Sénégalais, qui ont déjà été éclairés, hein, parce que je crois qu'en un mois, vous avez vu quand même,
oui,
comment les Sénégalais aujourd'hui perçoivent
en tout cas,
ce qui s'est passé.
Oui, Fabio et compagnie accusent Wade de vouloir faire du PDS sa propriété privée. Est-ce que vous partagez leur argument, vous qui, en 1998, avez accusé Wade de dire monarchie?
Non, vous savez, ils sont malvenus pour le dire maintenant que Wade a perdu le pouvoir. Parce que pourquoi ils l'ont jamais dit? Tant que Wade était au pouvoir et Wade leur avait donné des stations très importantes, sans aucune raison.
Il y a rien de similaire entre vous et...
Pardon, non, il n'y a pas de sans aucun mérite. C'était là aussi le pouvoir discrétionnaire de Wade, quand il leur a donné ces institutions importantes. Pourquoi ils n'ont pas dit que ce n'était pas normal? Mais lorsque j'ai eu donc un problème, un conflit avec Maître Abdoulaye Wade, nous n'étions pas au pouvoir. Et j'ai eu le courage et l'honnêteté d'assumer publiquement ce conflit. Moi, quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas sournois. Je suis un homme très franc. Non, je dis que je ne suis pas d'accord. Je l'ai dit de façon franche et claire. Et je claque la porte. J'ai des méchants. Je ne dis pas oui, je ne quitte pas, je suis je suis là, sans être là, je ne quitte pas le PDS, je suis encore dans le PDS, tout en disant, voilà, il y a eu une gestion monarchique du pouvoir, ou bien qu'on ne respecte pas les règles de démocratie, surtout quand on vient de perdre le pouvoir. Je dis vraiment, il faut un peu de décence, au moins. Si le PDS était un être humain, on lui dit, le PDS quitte le pouvoir ou le PDS meurt, au moins il faut attendre au moins 40 jours avant de faire ce qu'on a fait. Mais moins de 15 jours après la perte du pouvoir, on se permet de lancer une telle initiative qui avait été préparée depuis fort longtemps.
Ah oui.
Je crois que cela heurte toutes les valeurs du Sénégal, toutes les valeurs de la culture sénégalaise.
Merci, Maître Ousmane.